Eh bien, frères et sœurs, bonjour à chacune, à chacun, à ceux que je n'ai pas eu la joie de saluer. C'est un privilège pour moi d'être vôtre. C'est pas une punition de venir à Dunkerque, hein. Ça se mérite. Et je regrette pas mes 8-9 heures de voyage. J'habite en région parisienne. On a déménagé il y a un an entre Saintes et Cognac. Vous voyez, pour ceux qui sont forts en géographie. On a pris une location et là on vient d'acheter une maison. Alors Dieu merci, on est tombé du bon côté. Ça aurait pu être Cognac, mais non, ça va être Sainte. Bon, on voulait se rapprocher de l'église. On fréquente une petite église perspective maintenant sur Sainte. Donc, deux mots pour me présenter. Je suis marié à Geneviève, mon épouse, qui était infirmière, qui est retraitée maintenant. Alors moi, je suis retraité, mais à temps partiel seulement, administrativement. Mais Dieu merci, j'ai encore la santé et j'ai encore le privilège de voyager, visiter des églises. Je suis venu à Dunkerque, rue Marcel Bilke, mais il y a... Je me demande si c'était pas dans le dernier millénaire. Ben oui, ça nous rajeunit pas, mais c'est la réalité. Nous avons, avec Geneviève, commencé notre ministère pastoral fin des années 70 à Grenoble. Après quoi, nous avons assumé au plan national la responsabilité de OM, Opération Mobilisation. Ensuite, on a repris une église en région parisienne, et puis je me suis lancé dans l'itinérance, Dieu a ouvert la porte depuis 1995, et ces 25 dernières années, grosso modo, j'ai eu le privilège, en tant que conférencier itinérant, de sillonner les pays francophones, jusqu'à Wallis, Futuna, Nouvelle-Calédonie, les Antilles, bien sûr, des pays d'Afrique francophone, l'île de la Réunion. Et donc, voilà, j'ai été administrateur du CNEF pendant une dizaine d'années, j'ai présidé la Fédération évangélique de France pendant deux mandats, j'ai été impliqué dans une association qui a fait la promotion de l'école chrétienne, l'école privée protestante évangélique en France. Et puis, donc, je sais que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent, et j'ai publié aux éditions Varel 25 ouvrages. Alors, une petite annonce à ce sujet. Moi, je suis heureux de savoir qu'il y a une bonne librairie à Dunkerque. Toutes les villes où je passe n'ont pas ce privilège, c'est pourquoi j'apporte toujours quelques-uns de mes ouvrages. Donc, mes ouvrages sont en vente au compte de la librairie Onésime. Alors, si vous avez la bonne idée d'en acheter, si vous n'avez pas la bonne idée, vous pouvez toujours vous repentir, mais si vous avez la bonne idée d'en acheter, vous achetez d'abord ce qui est sur la table là-bas, c'est pour le compte de la librairie Onésime. Moi, j'en ai apporté quelques-uns, mais c'est enfilé, en route secours, il faut consommer local, hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis donc, oui, alors moi je suis enseignant à l'Institut biblique de Genève depuis 28 ans, je crois. Et donc voilà, ça continue par la grâce de Dieu. Voilà, alors moi je me réjouis vraiment de passer ces deux jours avec vous. Et on entend beaucoup de choses sur les prédicateurs. Il y a des gens qui pensent itinérants comme moi, parce que il y a des gens qui pensent que les prédicateurs itinérants sont comme les terroristes, ils posent des bombes et puis ils s'en vont. Ben moi, c'est pas comme ça. Moi, j'assume le service après-vente et je peux vous laisser mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. En tout cas, je peux vous dire que de Jésus, on peut pas dire ça. Alors il y a des gens, je reparle encore des prédicateurs, il y a des gens qui disent: oui, les prédicateurs, ils sont invisibles pendant 6 jours, et le 7e jour, ils sont incompréhensibles. Il y en a d'autres qui disent: oui, les prédicateurs, ils ont le chic de parler, de répondre à des questions que personne ne pose. Alors moi, je peux vous dire que de Jésus, on ne peut pas dire cela. Si vous aviez reçu une invitation pour participer à un séminaire avec comme orateur principal Jésus, qui nous parle du royaume des cieux, du royaume de Dieu. À quel niveau le chrétien doit vivre sa vie chrétienne pour refléter le royaume de Dieu? Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'enregistrement audio de l'époque, du temps de Jésus, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a laissé ses notes. Et l'évangéliste Matthieu, nous en offre de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, la version longue, sur 3 chapitres. L'évangéliste Luc, lui, c'est un choix éditorial de sa part, il a réduit, on va dire, à peu près à 1/3. Mais il y a beaucoup de points de contact, et nous, donc, on a la version longue. Et c'est de cela dont je vous propose de vous entretenir. Et le thème que moi je donne à ce sermon, c'est « Plaidoyer pour un christianisme cohérent ». Tu dis que tu connais Jésus, tu dis que tu es un enfant de Dieu, eh bien c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre, et c'est aux œuvres qu'on reconnaît le chrétien. Je vous dis tout de suite, l'enseignement est gratuit, mais ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Et bienvenue au club, on est dans le même bateau, on se donne la main, et que Dieu nous fasse grâce. Alors, la question à laquelle Jésus va répondre dans ce sermon, c'est quel est le niveau de vie qui est requis de quelqu'un qui prétend être membre du royaume de Dieu. Et on va voir que c'est un sermon qui nous pousse dans nos retranchements. Je vous en donne rapidement tout à l'heure ça marchait, et bien sûr, maintenant, ça ne marche plus. Et si je m'avance? Pardon? Ah, c'est là-haut. Bon. Il y a au moins quelqu'un qui dort pas, hein, Philippe. Bon, eh ben, c'est curieux. Tout à l'heure, ça marchait, et ça marchait bien parce que j'ai essayé. Il n'y a pas quelqu'un qui a une mauvaise pensée contre moi, là. Non, mais bon, attendez. On a touché à rien. Bon. Alors, quand même. Bon, Jésus n'avait pas de vidéoprojecteur, évidemment. Attendez, je remets les piles, on fait un essai. Sinon. Pourtant, j'ai changé les piles. Je suis désolé. Alors, je sais qu'il y aura au moins une personne qui va suivre, parce que je vais demander à Philippe d'appuyer pour passer la diapo suivante. Je suis désolé. Pourtant, je les ai changées. Alors, excusez-moi, je vais essayer avec les autres piles. Est-ce que, Philippe, vous voulez actionner juste la première, voir si c'est le truc qui est coincé? Même la première, elle veut pas passer? Bon. Eh bien, écoutez. Si vous relancez la machine. Bon, alors, je vous mets à l'aise. On aura un temps de pause, hein. Ben oui, il faut quand même prendre soin de... On fait tout pour le client qui est roi, et il faut quand même pas vous maltraiter. Mais bon, je peux quand même continuer. Les chapitres 5 à 7 du sermon sur la montagne, donc, se trouvent dans l'évangile de Matthieu. La grande thématique de Matthieu, c'est la venue du roi. Et il est question du roi qui est rejeté, du roi qui est couronné et du roi qui revient. Et l'évangile de Matthieu est ponctué de 5 grands discours. Le dernier étant Matthieu 24-25, le grand discours eschatologique. Le premier étant le fameux sermon sur la montagne. La venue du roi et du royaume. Alors il y a différentes interprétations. Ben, je suis désolé, mais... Et Philippe, vous n'avez... Ah. Bon, ça c'est moi. Ah bah oui, c'est moi. Bon, bah voyez, il faut continuer de pédaler, ça va le faire. Voilà. Bon, voilà. Bon, voilà le thème que moi je vous propose. Le profil du chrétien, une question de caractère. C'est pas caractère sanguin ou flegmatique, c'est pas ça. Mais ce qui est dans le cœur, à l'intérieur. les versets 3 à 12 du chapitre 5. Deuxièmement, le rôle et la mission du chrétien, une question de vision, lumière du monde, celle de la terre, versets 13 à 16. Troisièmement, le chrétien et son échelle de valeur, une question d'intégrité. Alors ce matin, on va voir les points 1 et 2. Cet après-midi, Dieu voulant, le chrétien et son échelle de valeur, une question d'intégrité. Demain matin, on va réfléchir sur la spiritualité du chrétien, une question d'authenticité. Chapitre 6, 1 à 18. Et demain après-midi, on verra les points 5, 6 et 7. L'ambition du chrétien, une question de priorité. Le chrétien et ses relations, une question de clairvoyance. Et l'engagement et la consécration du chrétien, une question de cohérence. Bon, si vous ne vous êtes pas repenti et que vous n'avez pas choisi d'acheter des livres, la bonne nouvelle, c'est que le PowerPoint, vous pourrez le récupérer. Je ne devrais pas vous le dire parce que ça empêche ceux qui voudraient prendre des notes de le faire. Et c'est toujours mieux quand on prend des notes et quand on écoute. Mais enfin, à bon entendeur, salut. Alors ce chapitre, ce sermon sur la montagne, pour beaucoup de gens, c'est vraiment, c'est l'Himalaya, c'est le toit du monde, c'est vraiment... Alors il y a des gens qui pensent que le sermon sur la montagne, c'est pour les vrais, les purs, les durs, vous voyez, ceux qui sont au-dessus de la médiocrité internationale, les chrétiens évangéliquement corrects, qui sont en plein temps dans le ministère, les pasteurs, les missionnaires, qui ne disputent jamais avec leurs femmes et qui ont tout bon partout là où les autres ont tout faux. Non. Le sermon sur la montagne, j'allais dire, c'est pour le membre ordinaire de nos églises ordinaires. Le Nouveau Testament ne présente pas un style de vie classe économique pour ceux qui se contentent du minimum syndical, et business class pour ceux qui en veulent un peu plus pour leur argent. Non. Le christianisme du Nouveau Testament, comme celui que Jésus prône, est le même pour tout le monde. Alors il y a des gens qui pensent que, dans son sermon sur la montagne, Jésus nous dit « Faites ce que je vous dis, et puis vous allez obtenir votre billet pour entrer dans le royaume des cieux. » Ben là, on tombe dans le salut par les œuvres. Et puis, attendez, l'être humain livré à ses propres ressources pour tendre la joue gauche quand on nous a frappé sur la joue droite, et je rappelle que nos amis inconvertis, c'est ce qu'ils connaissent du sermon sur la montagne, et ce qu'ils ne vont pas manquer de vous rappeler quand vous allez être poussé dans vos retranchements. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour tendre la joue gauche quand on nous a frappé sur la joue droite. Donc il est évident que, livré à nos propres ressources, on n'a pas les moyens pour vivre à la hauteur de la volonté de Dieu. Il faut plutôt comprendre ce sermon comme étant un poteau indicateur qui nous conduit vers le Christ et qui nous mène à la croix de Jésus. Et ça, là, on fixe le cadre. Parce que ce sermon, nous allons le voir, reflète encore une fois la qualité de vie spirituelle qu'un membre du royaume de Dieu doit pouvoir incarner, démontrer, pratiquer. Toi qui te dis chrétien, eh bien par la grâce de Dieu et avec le secours du Saint-Esprit, voilà ce qui est attendu de toi. Et là, c'est décapant et ça nous pousse dans nos retranchements. Et ça nous, oui, ça nous fait respirer un autre air. Alors Jésus, il a devant lui une bande de paysans palestiniens. Ce sont des gens qui n'ont pas bac plus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'instructions. Et Jésus, quand il les voit, il va leur dire « C'est vous ». La lumière du monde et le sel de la terre. Et vous imaginez que c'était au nez et à la barbe des scribes et des pharisiens, les représentants officiels de la religion institutionnelle. Et puis, qui l'eût cru, le premier mot que Jésus va prononcer. Alors, je ne sais pas si à Dunkerque il y a des rues piétonnières, comme on trouve souvent hein, dans l'hypercentre-ville. Et si on devait poser la question, faire un micro-trottoir, demander aux Dunkerquois, quand vous entendez le mot chrétien, quel mot vous associez au mot chrétien? Ce serait intéressant, hein, de... Et Jésus, quand il a devant lui cette bande de paysans palestiniens, le premier mot qui lui vient à l'esprit, c'est le mot heureux. Alors en français, on parle des béatitudes, du latin beatus, qui signifie heureux. Et ce terme de heureux, ça désignait, dans la langue de l'époque, on attribuait ce terme aux divinités. Les dieux grecs et romains, ben, qui étaient souvent des projections humaines, des gens religieux, ces dieux-là n'avaient pas de problème pour joindre les deux bouts à la fin du mois, financièrement parlant. Et on disait qu'ils étaient heureux. Ils ne risquaient pas un revers d'adversité, un coup dur. Ils étaient à l'abri des coups durs auxquels nous pouvons, nous, être soumis. Ils n'étaient pas à la merci. On disait qu'ils étaient heureux. Un Québécois, aujourd'hui, il dirait, ben, ils étaient chanceux. Dans un sens un peu plus théologique, on pourrait dire, ben, il y a une bénédiction spéciale qui repose sur le membre du royaume de Dieu. Il y a un privilège particulier, il y a une ou des bénédictions particulières qu'on ne trouve pas chez quelqu'un qui n'est pas membre du royaume. Et voilà à quoi Jésus fait allusion, à quoi il associe le fait de se trouver devant les membres du royaume. Ben, rien que cela, moi je trouve que c'est bon pour le moral. Vous pouvez vous détendre sur votre chaise. Et je trouve que c'est de nature à... Là, je pense qu'on a presque rentabilisé la moitié du déplacement en venant à l'église ce matin. Bon, pour rentabiliser le retour, il faut m'écouter jusqu'à la fin cet après-midi. Alors, voilà. Bon, ben évidemment, ça... Ah ben oui. Donc, le profil du chrétien, une question de caractère. On va relire. Alors, évidemment, dans le court laps de temps qui nous est imparti, ça va être un survol. J'espère que vous avez attaché vos ceintures de sécurité parce que on va décoller, on va prendre de la hauteur, mais on va essayer de faire dégager les pistes de réflexion essentielles et principales. Moi, je n'ai pas les réponses à toutes les questions et je vais vous poser certaines questions. Maintenant, si vous me posez des questions, essayez de me poser des questions dont je connais la réponse. Ça m'aidera. Une question de caractère. Alors, je lis dans la Bible du semeur. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Ouh là là, alors là, il faut pédaler fort. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Alors, donc, le membre du royaume, selon Jésus, il y a un plus, il y a une bénédiction qui repose sur son dossier personnel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que être chrétien, c'est avoir plein de choses en moins. Pour Jésus, c'est avoir plein de choses en plus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus esclave de nos vices, de nos passions, de nos hormones. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'assurance de notre salut en Christ, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà. Alors dans les béatitudes, Jésus présente 8 qualités morales, spirituelles. Intérieur. On vit dans un monde qui met beaucoup l'accent sur le look. l'aspect extérieur, l'emballage extérieur. Jésus, dans son sermon, met l'accent sur les qualités intérieures du cœur. Et devant Dieu, c'est certainement ce qui compte. Alors, parmi les béatitudes, ça forme un tout. Vous savez, Jacques 2,10 nous dit « Quiconque pêche contre un seul commandement devient à transgresser tous les commandements parce que ça se tient. » C'est comme le fruit de l'esprit. Personne ne peut dire « Ah ben moi, j'aime bien la douceur, ou l'amour, ou la paix, mais la maîtrise de soi, non, ça je laisse ça pour les autres. » Non, ça forme un tout. Et les béatitudes, on ne peut pas dire « Ah ben moi, artisan de paix, ça me plaît bien. » La persécution, un peu moins. C'est un tout indissociable. Et ces qualités morales reflètent le caractère de Dieu. Derrière chaque béatitude, il y aurait une étude à faire sur en quoi Jésus incarne cette vertu, cette qualité. On n'aura pas le temps de voir ce détail, mais il y a des pistes de réflexion. Je peux même aller plus loin. Pour chaque béatitude, on peut se poser la question, est-ce que moi je connais un frère, une sœur qui incarne cette qualité, cette vertu? Ou est-ce que dans la parole de Dieu, je trouve des personnages bibliques qui incarnent cette qualité? Et ça inspire, cette attitude inspire un comportement. Et on a besoin de modèles qui nous boostent, qui nous encouragent, qui nous stimule. Jésus fait 7 promesses, si on les met bout à bout. Alors, il est évident que ces promesses, certaines peuvent trouver un accomplissement immédiat, temporel, pour aujourd'hui et dans l'économie présente. Alors le royaume des cieux est à eux, ils seront consolés, ils hériteront la terre, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde, ils verront Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Mais, manifestement, il y a une dimension qui est encore à venir, eschatologique, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, les promesses de ces béatitudes nous entreront en pleine possession de leur réalisation quand Jésus reviendra. Donc, il y a une dimension pour aujourd'hui et pour plus tard. C'est important de maintenir en tension les deux aspects parce que vous avez des gens qui pensent que le serment sur la montagne, eh bien Jésus, quand il a prêché ce jour-là, il a prêché pour les absents. C'est dommage. Et il y a des gens qui vous diront, non, mais le serment sur la montagne, c'est pas pour les chrétiens dans l'ère de l'Église, mais c'est quand Jésus reviendra, quand il va instaurer le millénium, pour ceux qui croient à un millénium, un règne terrestre de Jésus de 1000 ans, alors ça pose problème si Jésus a prêché aux absents. Parce que pourtant, quand Jésus devant lui cette bande de paysans palestiniens, il leur dit « C'est vous la lumière du monde, c'est vous le sel de la terre ». Je ne pense pas que Jésus s'adressait aux croyants qui seront encore de ce monde quand Jésus établira ce règne de 1000 ans. Si on croit à un règne matériel et terrestre, temporel, 2000 ans, top chrono, sur la Terre. Donc, pardon, des promesses dont l'accomplissement est partiel dans l'économie présente, mais évidemment, la consolation, par exemple, la consolation parfaite, sera quand Jésus reviendra. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, il n'y aura plus de sujet qui pourrait nous attrister. Alors, manifestement, quand on lit le sermon sur la montagne, je l'ai dit, on se trouve catapulté sur le toit du monde, sur une sorte d'Himalaya spirituel. Et John Stott, le célèbre commentateur et théologien évangélique, donne comme titre à ce sermon la contre-culture chrétienne. Parce que, littéralement, Jésus prend à rebrousse-poil notre culture, ou notre manière de réagir, livrée à nos propres moyens, à nos propres ressources. Alors, voilà, c'est une introduction très sommaire aux béatitudes. On va essayer de prendre les unes à la suite des autres. Heureux ceux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, certains commentateurs pensent qu'il y a un ordre bien établi entre ces béatitudes. Ces béatitudes sont comme les marches d'un escalier, de la pauvreté spirituelle jusqu'à la persécution, qui retrace, grosso modo, le schéma de notre pèlerinage spirituel. La première des vertus, c'est prendre conscience de sa pauvreté spirituelle. Vous connaissez Windows pour les nuls, et bien là, on a le royaume de Dieu pour les nuls. Et Jésus dit, la première marche qui peut nous ouvrir la porte ou nous mener au royaume de Dieu, c'est prendre conscience de sa misère spirituelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile, elle commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui s'humilie, qui passe par ce que la Bible appelle la repentance, c'est la porte étroite dont Jésus va parler dans son discours, qui va déboucher sur le chemin resserré de la sanctification qui mène à la vie éternelle. Alors, les pauvres en esprit. Non, Jésus n'est pas en train de faire l'éloge de la débilité mentale. Jésus n'est pas en train de dire, de toute façon, pour être chrétien, il faut rien avoir dans le cerveau. Il faut être débile mental. Non. Jésus n'est pas non plus en train de dire, pour être chrétien, il faut être pauvre matériellement. Et la pauvreté matérielle, c'est pas un critère de spiritualité. Et plaise à Dieu que dans nos assemblées, nous ayons des frères et des sœurs fortunés, mais qui recherchent en premier lieu le royaume et la justice de Dieu, et qui injectent leurs ressources dans l'œuvre de Dieu pour faire avancer la cause du royaume. Ce terme que Jésus emploie désigne en grec l'état d'une personne qui est vraiment en dessous du seuil de pauvreté. C'est vraiment, on touche le fond dans la pauvreté. On est au bout du bout. C'est l'attitude que l'on trouve, cette prise de conscience de sa pauvreté spirituelle et de ses propres lacunes dans la parabole du publicain. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Luc 18, verset 13. Le contraste avec le pharisien, l'homme juste, droit dans ses bottes. Seigneur, voilà, tu as de la chance de me rencontrer moi, hein, parce que un bon chrétien comme moi, moi j'en connais pas. Hein, et quand je regarde autour de moi, et quand je vois ce que je vois, et quand je sais ce que je sais, eh bien j'ai raison de penser ce que je pense. Hein, parce que c'est tous des nuls et des maillons faibles. Mais Seigneur, toi tu... Et à côté, le publicain, aie pitié du pécheur que je suis. Voilà l'attitude de cœur qui ouvre la porte du royaume. Dans l'Ancien Testament, le pauvre ne pouvait pas se suffire à lui-même. Et par voie de conséquence, il en était réduit à se cramponner à cette bouée de secours et à se tourner vers Dieu pour que Dieu lui vienne en aide. Donc, c'est une qualité, prendre conscience de sa misère spirituelle. Dans Apocalypse 3, 17, dans cette église de Laodicée, le Seigneur fait ce reproche cinglant, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, etc. Donc, alors, l'humilité, c'est la première des vertus. C'est Paul, dans Philippiens 2, 4 et suivant, nous dit « Ayez en vous la pensée ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, lui, dans la condition, était celle de Dieu. » Et Dieu fait homme. L'incarnation de Jésus, c'est complètement à l'opposé de l'antichrist. L'antichrist, c'est l'homme qui cherche à se faire Dieu, et l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme, en la personne de Jésus. Et Paul, en Philippiens 2, nous exhorte à cultiver cette attitude, cet état d'esprit. Donc, à l'opposé de l'orgueil. Et vous savez comme moi que aujourd'hui, si vous allez dans les grandes librairies au rayon développement personnel, il y a de quoi faire. Hein. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Survivre à l'échec » et je suis allé, je me souviens, début des années 90, à la FNAC à Paris, et j'ai cherché au rayon développement personnel des livres qui parlaient de l'échec. Mal m'en a pris parce que je n'en ai trouvé aucun. Alors par contre, le succès en 10 leçons, presque remboursé sans facture, alors là, on pouvait trouver. Et je me suis dit, mais dans ma petite tête, est-ce que depuis Adam et Ève, est-ce que je suis le seul à avoir dans mon vocabulaire le mot échec? Et d'ailleurs, je me suis dit en moi-même, tous ces hommes qui claironnent haut et fort leur victoire et qui parlent du succès, j'aimerais bien parler avec leur femme, parce qu'elle sait ce qui se passe dans l'arrière-boutique. Mais enfin, on vit dans un monde où... moi, je me souviens, le premier message que j'ai entendu de Georges Verwer, le fondateur international et le directeur de Opération Mobilisation, son premier message que j'ai entendu, les cinq confessions d'un missionnaire faible. Alors moi, je peux vous dire, quand j'entends un message comme ça, je prends des notes. Hein. Je les ai encore, les notes. Hein. Parce que les confessions des missionnaires forts, bon ben, c'est formidable. Il y a un livre sur la vie de Hudson Taylor. C'est presque décourageant, parce que voilà, Hudson Taylor se levait tous les jours à 4 heures du matin, il lisait 2 heures sa Bible, il priait pendant 1 heure, et je pense qu'il disputait jamais avec sa femme, et il avait tout bon là où moi j'ai tout faux. Et c'est culpabilisant, ce genre de... Par contre, il y a une autre biographie de Hudson Taylor, où on voit le côté cour et le côté jardin. Ça, c'est un peu plus à visage humain, vous voyez ce que je veux dire. Bon, le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, qui nous brosse le portrait des héros des hommes et des femmes de foi, il y a des gens qui figurent dans la photo de famille, probablement que vous et moi, on n'aurait pas introduit. Hein. Je prends par exemple Samson. Hein. Samson, c'est un coureur de jupons, n'ayons pas peur des mots, de première. Hein. Et le premier mot de Samson, j'ai vu une femme. Et puis, il en a eu plusieurs dans sa vie. Hein. Et voilà, Samson, il est quand même célébré, il fait partie de la photo de famille pour sa foi. Bon. Je ferme ma parenthèse, vous aurez compris que parfois ce qui est entre parenthèses, pour ceux qui prennent des notes, c'est aussi important que ce qui est hors parenthèse, au moins je vous aurais prévenu. Et Jésus dit à eux le royaume. Quelle promesse, quelle récompense. Ils ont un titre de propriété établi en bonne et due forme. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce à ceux qui sont humbles. De Moïse, hein, une des grandes qualités de Moïse, c'était sa douceur ou son humilité. Bon. Alors, là encore, on peut se poser la question, bon, je ne vais pas vous la reposer à chaque fois, mais on a parlé de ceux qui sont spirituellement pauvres. Est-ce que vous, dans votre esprit, en réfléchissant, vous connaissez des frères, des sœurs qui ont cette humilité? Qui sont conscients de leurs lacunes. Alors, il faut quand même dire un mot. Il faut être équilibré. Blaise Pascal, par exemple, ce grand philosophe, manifestement né de nouveau, a dit « Le moi est haïssable ». Et c'est vrai, comme dira Paul de Romains 7, en moi n'habite rien de bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que de la racine des cheveux jusqu'à la plante des pieds, il faut tout mettre à la poubelle. Oui. C'est un passage obligé, mais ça ne doit pas être un terminus, c'est un passage obligé. S'humilier, il y a un temps pour s'humilier, le psalmiste dit le soir arrivent les pleurs, mais au matin l'allégresse. Donc il ne faut pas rester à ce stade-là, parce que sinon, il n'y a plus qu'à se tirer 2 balles, et puis il nous reste une boîte de Kleenex pour se consoler, hein, si on peut encore se consoler. Vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Qui l'eût cru, heureux ceux qui savent pleurer. Alors là encore, Jésus ne dit pas heureux les pleurnichards. Et les chrétiens ne sont pas des gens qui devraient faire pitié plutôt que envie, au point de vous donner envie de zapper et de changer de chaîne. On pourrait plutôt traduire heureux les endeuillés. « Pour vous, dit Jésus, à qui la mort a ravi un être cher, de manière insupportable. J'ai une bonne nouvelle. Jésus a su pleurer sur la mort de Lazare, son ami, et on voit son humanité. Et on a pu dire, voyez combien il l'aimait. Le psalmiste, au psaume 119, au psaume 42, verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit en tout temps, « Où est ton Dieu ?» Déjà le psalmiste. Jésus a su pleurer sur l'impénitence de Jérusalem, à qui le Père a envoyé des prophètes, mais qu'ils ont persécuté, qu'ils ont rejeté. Alors il y a une affliction selon Dieu. Et d'après 2 Corinthiens 7, Paul nous dit qu'il y a une affliction qui nous mène à pleurer, mais celle-là, elle est à salut. Alors que dans le monde, il y a une affliction, mais il n'y a rien au bout, il n'y a aucune espérance. Et ça, c'est le désespoir. Quand le Saint-Esprit produit une conviction de péché, au bout du tunnel, il y a une issue de secours. C'est l'œuvre accomplie par Jésus qui offre le pardon aux pécheurs repentants. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, savoir pleurer sur soi-même. Être affecté par ses propres péchés. Ben, quand on étudie l'histoire de l'Église, en période de réveil, les hommes, les femmes que Dieu a touchés ont commencé par pleurer sur leurs propres péchés. Et c'est ensuite ce qui leur a permis de pleurer, je dirais, sur le péché des autres. L'Écriture nous parle dans 2 Pierre 2,7 de Lot qui était profondément affligé par la conduite déréglée de ses contemporains. Donc il y a pleurer sur soi, mais aussi savoir pleurer sur les autres. Mais avant de pouvoir pleurer sur les autres, il faut savoir pleurer sur soi-même. Et la bénédiction, là encore, que Jésus promet, c'est la consolation. Alors, bien sûr, cette consolation, elle sera ultime et irréversible quand Jésus reviendra. Dans Apocalypse 21, verset 4, il est dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et il faut rappeler que une des particularités du Messie promis dans les prophéties messianiques de l'Écriture, c'était précisément qu'il apporterait un règne de paix, de justice et la consolation. Cette huile de joie et de consolation. Et il changera le deuil en allégresse. Et Jésus reprend à son propre compte cette promesse. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Jésus n'est pas en train de dire que les chrétiens doivent être des faibles. Ils peuvent faire waf-waf quand on leur dit de faire waf-waf. Il y a des gens qui pensent que être chrétien, c'est être faible. Alors quand Jésus a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre », ça cadrait mal avec l'attente messianique à l'époque où Jésus a prononcé ces paroles. Parce que les pharisiens s'attendaient à ce que le Messie arrive en fanfare, avec tambour et trompette, sonner musette, qui allait démontrer de façon spectaculaire sa puissance. Les sadducéens mettaient l'accent sur le côté terrestre et matériel du royaume. Les esséniens, eux, c'était du contemplatif. Eux, ils s'attendaient plutôt à... Ils avaient plutôt une vision monastique. Et ils s'attendaient à un royaume monastique, loin du monde, qui est mauvais et méchant. Tandis que les zélotes, ah ben eux, c'était... ils n'hésitaient pas à prôner la lutte armée pour l'instauration d'un royaume militaire, moyennant chasser l'occupant romain de la Palestine. Donc, vous voyez que les attentes étaient multiples et variées. Et Jésus dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Si on n'est pas chrétien, ça incite, j'allais dire, à la rigolade. Bon, Jésus est venu, le prophète l'avait annoncé, monté sur un petit ânon. La douceur en français, c'est pas nécessairement une vertu. Pourtant. Le terme qui est employé dans l'évangile de Jean désigne le caractère d'un animal qui a été domestiqué ou apprivoisé. Imaginez un lion, un éléphant, une panthère, à l'état brut et naturel, qui peuvent faire des dégâts pas possibles, mais quand leur énergie elle est canalisée, bien, un dompteur, chacun son ministère, moi mon ministère c'est pas être dans la cage, c'est de regarder ce que fait le dompteur avec ce petit félin. Le dompteur fait faire des choses extraordinaires à ce prodige de la nature. Une autre image. Au sommet de la montagne, un morceau de roche qui se détache de la montagne. C'est un silex. C'est tranchant. Vous le prenez dans la main, faut pas le serrer parce que ça peut vous couper. Ce fameux silex, au bout de X années, ne me demandez pas combien, il va dévaler la pente de la montagne dans le lit du torrent et il va arriver au fin fond d'une vallée et ce silex va être transformé en galet. Un galet. Et je trouve que ça, c'est une belle image. L'être humain livré à ses propres ressources et ce silex, tranchant. On est tous coupants sur les bords. La différence, c'est que chez certains, les bords sont beaucoup plus larges que chez les autres. Et ça coupe beaucoup plus. Mais ce silex que je suis à l'état brut, eh bien, par l'action du Saint-Esprit, le Seigneur va le transformer en galet. Ben, la douceur, ça figure parmi cette liste non exhaustive du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Et Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bon, et de votre femme aussi. Hein. Il faut que tout le monde se rende compte de notre douceur. Mais donc la douceur, si vous voulez, c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans le cœur et la vie d'un membre du royaume qui avait à l'état brut des travers, un côté tranchant, mais au fil du temps, le Seigneur a réussi à arrondir les angles et ce silex devient un galet. Et la douceur n'est pas synonyme de vulnérabilité ou de faiblesse. Être chrétien, c'est pas être un mou, mais il y a une douceur qui est, le livre des Proverbes nous dit qu'une parole douce apaise la colère. Et Dieu sait si dans une situation relationnelle conflictuelle, si une personne ne rentre pas dans le jeu de son interlocuteur ou interlocutrice, mais prononce des paroles douces, apaisantes, c'est plus efficace que de brandir son kalachnikov et de tirer sur tout ce qui bouge. Alors, il y a des beaux exemples de personnes qui ont incarné la douceur. Moi, je pense à Joseph qui aurait pu se venger contre ses frères et qui a pu leur dire en Genèse 50, « Non, mais le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. » Ben, attendez, hein, il faut avoir, c'est pas de la théorie, hein, et pour offrir ce pardon qui est cadeau pour ceux qui en bénéficient, il y a quelqu'un qui paye la facture plein pot quelque part. Et il faut l'action du Saint-Esprit. Alors Jésus, bien sûr, est le modèle du genre, la douceur. Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance du péché. Et Jésus a pu dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je suis doux et humble de cœur. » Entre parenthèses, on voit le rapport, la douceur et l'humilité. On ne peut pas être agressif et doux en même temps. C'est incompatible. Et dans 1 Pierre 2, 22-23, il est dit que de Jésus, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et donc, la douceur, c'est le fait de renoncer à la volonté de vengeance. Et c'est le fait de remettre à Dieu le soin de gérer son dossier. Bon, et la promesse, ils hériteront la terre, les doux. Ce ne sont pas ceux qui pensent que c'est à la force de la baïonnette ou du kalachnikov qu'on peut régler des problèmes. ce ne sont pas eux qui vont entrer dans le royaume, mais ce sont ceux qui, comme Jésus, se laissent insulter et sans rendre la monnaie de la pièce. Donc l'héritage des saints dépasse les limites d'un royaume terrestre. Et 1 Pierre 1,4 nous parle de cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et si on revient dans l'Ancien Testament, le pays promis dans lequel Josué a fait entrer les Israélites, ce pays promis de Canaan, bien sûr, n'était qu'un avant-goût, une anticipation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Alors une autre caractéristique du membre du royaume, c'est qu'il a faim et soif de justice. Le membre du royaume, il a soif de Dieu. Alors la justice, c'est ce qui correspond à la nature et au caractère de Dieu. C'est ce à quoi il peut accorder son imprimatur, ce qui coïncide avec sa nature. Et le membre du royaume, nous dit Jésus, c'est quelqu'un qui a faim et soif. Non pas des nourritures terrestres dont parlait André Gide, mais des valeurs qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui valent mieux que tout l'or tout l'or en barre de la planète. C'est une chose que manquer d'appétit devant une assiette bien garnie, et Dieu sait si en Occident aujourd'hui, il y a bien des gens qui auraient de quoi nourrir des populations qui souffrent de malnutrition en jetant à la poubelle ceux qui ne veulent pas manger. Mais c'est une autre chose que de se trouver blasé spirituellement et de ne pas avoir faim et soif de Dieu. Le psalmiste pouvait dire comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est le psaume 42e. Avoir faim et soif de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, verset 2. On est loin de la philosophie du chrétien qui se contente du service minimum et syndical, la philosophie du « ça me suffit ». J'ai le billet pour aller au ciel. Je suis dans la bonne colonne. Maintenant, cool Raoul, relax Max, à l'aise Blaise, tranquille Émile et pas de panique Monique. Et il y a des gens qui fonctionnent avec ce genre de processeur et qui sont blasés et qui n'ont pas cette faim, cette soif de Dieu. Alors, quand on a faim et soif de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que on va être rassasié. Vous savez, c'est comme la Bible dit, que nos œuvres nous suivent. Et dans l'Apocalypse, il est dit que les rachetés, ben, ils se reproduisent. Ben, moi, dans ma petite tête, si j'ai bien compris, ça veut dire que ceux qui ne se sont pas beaucoup fatigués ici-bas pour faire avancer la cause du royaume, à mon avis, ils n'auront pas les premières places sur une chaise longue. Hein. En tout cas, ils vont pas se reposer de grand chose. Eh bien, ceux qui ont faim et soif, ils vont être comblés de cette justice qui fait vivre. Et ils ne vont pas être déçus. Dès lors que nous avons goûté que le Seigneur est bon, on en veut davantage. Et sur la terre, on ne devrait jamais se satisfaire de l'état auxquels nous sommes parvenus. Et moi, je pense que une des bénédictions, quand on est plus ou moins en retraite, ou en retraite non pratiquante, c'est qu'on on doit pouvoir dégager davantage de temps pour entretenir sa vie spirituelle et investir dans la qualité de son être intérieur. Et ça, ça doit être en tête de liste. Parmi nos priorités, le ressourcement dans la parole de Dieu, dans la recherche de la face de Dieu, dans la prière, et puis l'investissement dans l'église locale, qui est, j'allais dire, une petite succursale du royaume de Dieu. Ils seront pleinement rassasiés. Jésus a dit, Pierre, dans 2 Pierre 3,13, « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Dieu sait si aujourd'hui, dans notre monde, bien des gens ont soif de justice. Et Dieu sait si nombre de personnes sont victimes d'injustices inqualifiables. Et en ce bas monde où nous vivons, il y a encore trop de coupables qui se font passer pour des victimes et des victimes que l'on fait passer pour des coupables. Eh bien, le royaume messianique, par définition, annoncé par les prophètes, était un royaume où la justice prévaudra. Et qu'il est bon de savoir que Jésus va, quand il va revenir, remettre de l'ordre dans ce grand désordre. Et la justice fonctionnera parfaitement. Et les aspirations les plus profondes au plan moral ou spirituel, cette soif d'absolu que Dieu met dans notre cœur, ces aspirations les plus profondes seront parfaitement satisfaites, étanchées et comblées. Et on sera rassasiés. Et personne ne pourra dire, « Ah non, quand même, c'était mieux quand on était à Dunkerque. » Cinquième béatitude, heureux les miséricordieux car ils obtiendront la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Quelqu'un a dit, j'étais dans la misère et quelqu'un m'a tendu une corde. C'est pas très recherché, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais ma foi, vous pouvez prendre des notes, c'est gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur. On vit dans un monde qui nous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Où la force, eh bien, vaut mieux être un lion qu'un agneau, hein, parce que on sait qui va se faire manger par qui. Et Jésus dit, heureux ceux qui offrent la miséricorde. Bon, la parabole du bon samaritain illustre bien qu'est-ce que c'est la miséricorde. Luc 10, versets 25 à 37. C'est ce samaritain, celui qui était au bas de l'échelle et qui était méprisé, qui a mis son amour en action. Pardon, pour venir en aide à un nécessiteux. Et on a de très nombreux exemples de miséricorde. Ben moi, je pense que les frères et sœurs qui s'investissent avec les valeurs de l'Évangile dans une action humanitaire, que ce soit auprès des migrants ou autres, voilà, c'est de l'amour en action, c'est de la miséricorde dont Jésus parle. Et Jésus, par définition, incarne la miséricorde. Il a su accueillir des gens qui étaient infréquentables. Et Jésus avait le chic d'accueillir les pécheurs de chez pécheurs que les propres justes religieux méprisaient et rejetaient. Et à l'inverse, Jésus rejetait les propres justes que les religieux accueillaient, adoubaient, et approuver. C'est le monde à l'envers. Jésus avait le sens de l'accueil. Il a accueilli des gens, des prostituées, des gens de mauvaise vie, des ivrognes, des percepteurs d'impôts, des gens qui magouillaient dans les finances, etc., etc. Et bon, là encore, vous connaissez certainement des personnes qui incarnent cette béatitude et qui donnent envie et qui inspirent. La miséricorde, c'est mieux que les actions en bourse parce que ça vous garantit un retour sur investissement. C'est comme l'effet boomerang. Hein. On récolte ce qu'on a semé. Vous savez ce que c'est un boomerang, hein. Si vous en donnez à nos enfants, ils l'envoient. S'ils l'envoient bien, ça ne va pas atterrir dans le jardin du voisin, mais ça va revenir à l'expéditeur. Jésus dit finalement que la miséricorde que l'on a offerte aux autres, eh bien, un jour, on va en bénéficier. C'est la même logique dans le pardon. Quand Jésus dit « Le Père ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas », ça ne veut pas dire que quand je décide de pardonner, je gagne des points sur ma carte, qui oblige Dieu à me pardonner parce que j'ai suffisamment de points. Ben non, là, on tombe dans le salut par les œuvres, on n'a rien compris à la grâce. Mais si on a compris à quel point nous qui étions insolvables, Dieu nous a fait grâce en Christ, alors que cette dette était impossible à rembourser, eh bien, les petites pécadilles, les vétilles, les broutilles dont les autres se sont rendus compte à notre égard, eh bien, c'est un détail. Et si j'ai compris le sens du pardon dont j'ai largement bénéficié, je ne peux que l'offrir à celui qui m'a offensé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors là encore, Jésus met l'accent sur le cœur. Et ça, c'est une des grandes différences avec la religion, ou du moins les religieux du temps de Jésus, qui avaient une conception très extérieure de la pureté. Et c'était la pureté cérémoniale. Alors il fallait se laver les mains avant le repas. Alors bon, il n'y a pas d'enfants parmi nous, mais c'est une très bonne chose de se laver les mains, et c'est à encourager avant de passer à table. Mais les pharisiens se souciaient d'une pureté extérieure. Jésus met l'accent sur la pureté du cœur. Et là, on ne joue pas dans la même cour. Et Jésus a taxé les religieux d'hypocrites. Parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Purifie premièrement l'intérieur, hypocrite, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et au dedans sont pleins d'ossements de mort. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, versets 25 à 28. C'est une de ces diatribes, pas piquées des vers, que Jésus proclame à l'encontre des pharisiens. Les paroles les plus dures que Jésus a dû prononcer n'étaient pas adressées aux païens de chez païens, mais aux propres justes religieux qui considéraient que eux, ils avaient le niveau et ils n'avaient pas besoin de se repentir de leurs péchés. Alors le cœur, c'est le QG, le quartier général de la personne. Dans notre jargon, quand on dit donner son cœur à Jésus, c'est remettre à Jésus les pleins pouvoirs. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le cœur, c'est le siège de la personne. Le siège des facultés mentales et intellectuelles. Le siège de la volonté. Le siège des facultés émotionnelles et affectives. Et puis, le cœur, c'est le siège de la conscience. C'est vraiment, allez, le processeur ou la carte mère de votre ordinateur. C'est vraiment le fin fond de l'affaire. Alors, c'est intéressant, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu? C'est le péché. Et la pureté dont Jésus parle, par définition, c'est l'absence de mélange. Aucun corps étranger. Dans une salle d'opération, je crois savoir que c'est censé être un lieu aseptisé. Bon, le problème, vous connaissez les maladies nosocomiales, hein? On va à l'hôpital, on se fait opérer pour un petit truc, et puis on revient chez soi, et là, il y a un voyageur qui s'est incrusté, qui n'avait pas été invité, et vous avez ramené un germe, et qui va vous poser encore plus de problèmes que la raison qui a motivé votre première intervention. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est le péché qui m'empêche de voir Dieu tel qu'il est. Et quand mon cœur est purifié par le sang de Jésus, je peux voir Dieu tel qu'il est. Et il y a pureté et pureté. La pureté du point de vue de Dieu, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et l'impureté, par définition, c'est l'intrusion, c'est le fait de tolérer un intrus, un corps étranger, le péché. Et la récompense, c'est que celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Alors on le sait, dans la Nouvelle Jérusalem, aucun impur ne pourra entrer. Aucun pécheur dont les péchés n'auront pas été couverts par le sang de Jésus ne pourra avoir accès au royaume de Dieu. Et on comprend le cri du cœur du psalmiste 51, verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle-moi un esprit bien disposé. » Bon, il faut avancer. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » J'aime bien cette image où Beaucoup de gens construisent des murs de séparation. Eh bien, nous, on préfère construire des ponts de réconciliation. Et on peut dire que là où la culture, là où même parfois la religion a dressé des murs de séparation entre les hommes, les êtres humains, l'Évangile construit des passerelles de réconciliation. Pendant une vingtaine d'années, nous avons été, mon épouse et moi-même, en région parisienne, membres d'une église de l'association baptiste. On avait plus d'une quinzaine de nationalités. Dimanche, j'étais dans une église en région parisienne où il y avait plus de 30 nationalités différentes. Et il y avait le maire de la ville qui avait été convié pour venir au culte. C'était les 20 ans de l'église. Ben, je peux vous dire que ça, c'est un témoignage d'intégration. Nos élus ont mal à partir avec le problème du communautarisme. Eh bien, en Christ, nous qui venons d'arrière-plan culturel, intellectuel, tellement différent, en Christ, le mur de Berlin, il est tombé. On en parle en ce moment, c'est d'actualité. Hein. Ben, relisez Éphésiens 2, et Paul dit que le mur de séparation entre les Juifs et les païens, il est tombé. Et en Christ, il n'y a plus deux églises, mais il y en a le nouveau peuple de Dieu, pas plus juif que païen. Il est nouveau. C'est nouveau, ça vient de sortir, comme Coluche aurait pu dire. C'est la communauté spirituelle de l'Église. Ça, c'est un témoignage d'intégration. Il faut l'action du Saint-Esprit. Alors, la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, la paix. Ça, c'est restrictif. Mais c'est un état de bienfaisant. La shalom, dans l'Ancien Testament, c'est un état de prospérité morale, spirituelle et matérielle. C'est global. Dieu est l'artisan de paix par excellence. Jésus est le prince de la paix. Et par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des enfants adoptifs. Alors les artisans de paix, mais une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on veut offrir la réconciliation. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5 à la fin que Dieu nous a fait ambassadeurs. Et ambassadeurs pour offrir et proclamer le message de la réconciliation. Et Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, alors que c'est le péché qui avait fait de nous des enfants de colère. Et quand on est motivé par l'amour de Dieu, il n'y a aucune discrimination. Et Jésus promet, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Mais ils sont les fils de leur père. Dieu qui est celui qui a réconcilié les hommes avec lui et les hommes entre eux, Jésus qui est le prince de la paix, lui qui a fait la paix, eh bien, si nous sommes membres du royaume, nous sommes appelés à mettre la paix. Vous connaissez la belle prière de François d'Assise, là où il y a la guerre, etc. Et là, on peut se poser une question, en quoi, moi, en tant qu'individu, ou en tant que communauté, on peut être un artisan de paix là où Dieu nous a placés. Bon, et puis, enfin, et il va falloir s'arrêter, la dernière béatitude, on pourrait dire, sans transition, après la paix, il est question de la persécution. Devant un chrétien, un membre du royaume qui incarne la volonté de réconciliation, il y a deux possibilités. Ou bien vous avez envie de faire comme lui, il va vous dire, moi, ton Jésus, ton christianisme, ça m'intéresse, moi, je veux devenir comme toi. Ou bien, il assimile, ou bien, il élimine. Et devant un véritable enfant de Dieu, on a envie de se convertir, ou alors on persécute. Et Jésus entrevoit cette deuxième solution. Alors, Jésus dit bien, persécuter à cause de la justice. C'est pas persécuter parce qu'on a fait une bêtise. Ou qu'on a tendu le bâton pour se faire battre. Et on est persécuté à cause du nom de Jésus. Attention. Richard von Brandt, vous devez connaître ce pasteur roumain, je crois, qui a passé plus de 13 ans de sa vie dans les prisons communistes, avant l'effondrement du bloc de l'Est, hein, du mur de Berlin et des pays de l'Est. Il a passé 13 ans de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle « Mes prisons avec Dieu ». Et c'est intéressant, il dit, un chrétien, c'est comme une rose. Quand vous l'écrasez, la seule manière pour la rose de réagir, c'est d'exhaler son parfum. Waouh, c'est pas de la théorie, hein, il savait de quoi il parlait. Hein. Et c'est clair que quand on est poussé au-delà de nos retranchements, quand on est au taquet et poussé à bout, on voit ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur va ressortir. Et c'est clair qu'il faut être rempli du Saint-Esprit pour incarner cette béatitude. Alors ça, ça fait partie de l'ADN du membre du royaume. L'aptitude à endurer la persécution. Bon, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Alors Jésus n'est pas en train de dire que les chrétiens doivent être des masochistes et trouver du plaisir dans la souffrance en disant « encore, encore, j'en réclame ». Non. Mais Jésus dit, face à la persécution, le membre du royaume, il a de quoi réagir. Bon, alors, si vous mettez bout à bout toutes ces béatitudes, eh bien, vous obtenez le portrait robot du membre du royaume de Dieu. Tout comme dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, etc., la maîtrise de soi. Et la liste n'est pas exhaustive. Elle est indicative. C'est un pluriel collectif. C'est un singulier collectif. Le fruit de l'esprit. Eh bien, montrez-moi un membre du royaume. Donnez-moi des noms, des adresses. Montrez-moi des photos. Eh bien, Jésus dit, le membre du royaume, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il n'est pas à la hauteur du royaume de Dieu. Il sait pleurer sur ses péchés. Il sait s'humilier sur ses fautes. Il est compatissant dans son rapport à autrui. Il est passionné par la recherche de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Il a faim et il a soif de Dieu. Il offre la grâce à son prochain, la miséricorde, plutôt que la condamnation. Il cultive la pureté dans le jardin secret de son cœur. Il construit des passerelles de réconciliation plutôt que des murs de séparation. Et il est disposé à se laisser opprimer et même éliminer pour la cause du royaume de Dieu et par amour pour Jésus. Alors là, docteur, il n'y a pas photo, ne cherchez pas, c'est un vrai membre du royaume de Dieu. Hein. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour vivre à la hauteur de cet appel. Voilà. Eh bien, ça fait du chemin, je vous avais dit. Vous allez pouvoir détacher vos ceintures, mais respirez fort. Hein. Je vous ai dit, l'enseignement est gratuit, hein, mais on se donne la main. C'est la mise en pratique qui compte. Bon, on peut prendre 2 minutes encore avant la récompense bien méritée. S'il y avait une question ou une remarque qui peut édifier les uns les autres ou quelque chose, si ça vous empêche de dormir la nuit, il vaut mieux le dire maintenant. Et en général, on a du mal à commencer par la première personne. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va commencer directement par la deuxième personne qui aurait une question ou... Mais sinon, soit que c'était tellement clair que vous avez tout compris et qu'il n'y a plus rien à dire, ou alors vous n'avez rien compris et il faut tout recommencer. Je suis prêt. Mais moi, vous êtes courageux. Hein. Si vous avez survécu à la première session, vous êtes bon jusqu'à demain après-midi. Allez, j'ouvre la cage aux oiseaux. Et puis, de toute façon, j'assume hein, le service après-vente. Je suis là jusqu'à mon train, c'est lundi, à 13h56. Donc, voilà, je suis là.